crois que d'après les règles, il est désormais un peu tard pour dire bonne année. Mais comme c'est la première fois que je reviens vous voir depuis le mois de novembre, quand même j'espère que cette nouvelle année 2017 a bien démarré pour vous. Et je vous apporte les salutations des frères et sœurs de l'Église libre d'Aix-en-Provence, ainsi que de mon épouse qui aurait aimé être là, mais qui est aujourd'hui au fond de son lit avec une pneumonie. Donc elle sera peut-être là une prochaine fois, mais voilà, elle nous accompagne par la prière. Nous avons quitté le livre des juges au chapitre 10, avec deux juges mineurs, Tola et Yaïr, et puis un résumé un peu triste du comportement du peuple de Dieu envers son Dieu. Et maintenant, nous arrivons à autre chose. Je me demande s'il y a des garçons. Je vois qu'il y a trois garçons ici, là, devant. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre dans l'assistance qui aime les histoires de brigands. Est-ce que vous aimez les histoires de brigands? Oui, non, pas trop? Non?
Ça dépend si.
Ou si ce sont des gentils brigands, etc. Alors, Lucas, tu sais que moi, je viens du Royaume-Uni. Et qu'au Royaume-Uni, il y a un brigand particulièrement célèbre et particulièrement populaire, qui s'appelle comment? Ah, en anglais, Robin Hood, oui, Robin des Bois. Alors figurez-vous que ce Robin des Bois, qui a vécu au Moyen-Âge, à l'époque de ce roi célèbre, hein, qu'en France on appelle Richard Cœur de Lion, et en Angleterre, on appelle Richard the Lionheart. Eh bien, ce Robin des Bois ressemble un peu au héros de notre récit de ce jour, qui est aussi un brigand. Parce que Robin des Bois, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais il a été chassé de ses terres. Son père a été exécuté, on va dire, par ceux qui, soi-disant, s'occupaient du royaume pendant que le roi Richard était en croisade, et en fait, essayaient de récupérer tous les biens qu'ils pouvaient, et le père de Robin se trouvait être fidèle au vrai roi, alors il a été éliminé. Et Robin s'est trouvé privé de tout droit d'héritage, et il est allé dans la fameuse forêt de Sherwood, où, autour de lui, tout comme autour du héros de ce passage du jour, eh bien, des gens qui avaient également tout perdu se sont rassemblés, et il y a eu tout un groupe de brigands. Alors, je ne sais pas si vraiment ils ont volé les riches pour donner aux pauvres. Peut-être. Peut-être surtout voler les riches pour pouvoir vivre, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, leur histoire ressemble un petit peu à l'histoire d'un certain Jephthé. Alors, avant de commencer cette histoire, je vous rappelle un tout petit peu ce qui s'est passé, pour ceux qui n'étaient pas là en novembre et pour qu'on se remette dans l'histoire. Donc si vous avez votre Bible, je vous invite à ouvrir au chapitre 10 et 11. Nous sommes en plein milieu du livre des juges. Et à quelque chose près, nous sommes à 1100 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Donc ces événements se sont passés il y a un peu plus de 3000 ans. En étudiant le 10e chapitre des juges, nous avions vu à travers les deux exemples de deux juges mineurs, Tola et Yaïr, de nouvelles illustrations de la grâce de Dieu et en même temps de la tentation si terrible à toute époque. On le voit nous particulièrement à cette époque-là, mais nous devrions peut-être regarder notre époque, cette tentation si terrible de l'idolâtrie, du désir de se servir soi-même plutôt que de servir Dieu. Nous avions également été témoins des chutes répétées du peuple d'Israël dans l'infidélité, dans le rejet du Dieu rédempteur, Dieu de l'Alliance. Chute si souvent suivie, lorsque leurs conséquences négatives se faisaient ressentir, par une repentance si superficielle, si peu durable, que Dieu a fini par annoncer qu'ils allaient désormais connaître continuellement, la pression d'une sorte de pince. Les Ammonites au nord-est, les Philistins au sud-ouest. J'espère que vous avez un peu la carte dans votre tête, sinon vous regardez les cartes à la fin de votre Bible, j'espère que vous en avez. Les Ammonites, ils sont à l'est du Jourdain, deux tribus et demie du peuple d'Israël étaient également à l'est. Et les Ammonites traversaient aussi de temps en temps le Jourdain pour aller embêter les tribus qui étaient à l'ouest aussi. Mais enfin, surtout, et l'histoire aujourd'hui se passe du côté est, donc nord-est du Jourdain. La plupart des chapitres de la deuxième moitié du livre des Juges, d'ailleurs, ainsi que plusieurs chapitres des deux livres de Samuel sont consacrés à ces deux ennemis, aux Ammonites et aux Philistins. Évidemment, l'histoire la plus célèbre de la Bible, ça concerne les Philistins, n'est-ce pas, David et Goliath, c'est encore les Philistins qui viennent embêter et opprimer les Israélites. Si Dieu a accepté encore d'intervenir pour sauver son peuple, ce dixième chapitre du livre des Juges a rendu très clair que ce n'est pas à cause de la repentance de son peuple, mais seulement à cause de sa compassion de Père céleste parfait. Alors, est-ce que l'histoire de Jephté va continuer à illustrer les mêmes leçons que le chapitre 10? Ou bien, est-ce que son exemple a une portée un peu différente? On va reprendre notre lecture et nous allons voir et peut-être avoir quelques réponses à ces questions. Nous commençons la lecture juste avant la fin du chapitre 10, au verset 17, au verset 17, et nous allons continuer avec le début du chapitre 11. Donc, Juges 17. Les Ammonites mobilisèrent leurs troupes et prirent position dans la région de Galaad. De leur côté, les Israélites rassemblèrent leurs forces et dressèrent leur camp à Mitzpah. Alors, les hommes et les chefs installés en Galaad se demandèrent les uns aux autres « Qui va lancer l'attaque contre les Ammonites ?»« Celui qui le fera deviendra le chef de tous les habitants de Galaad. » Jephté, originaire de Galaad, était un vaillant guerrier. Il était le fils d'une prostituée et d'un homme appelé Galaad. Lorsque la femme légitime de cet homme lui eut aussi donné des fils et que ceux-ci furent devenus adultes, ils chassèrent Jephté du foyer en lui disant « Tu n'auras pas d'héritage, c'est notre père, car tu es le fils d'une autre femme. » Et Jephté s'enfuit loin de ses frères. Il se fixa dans la région de Tob. Bientôt, toute une bande d'aventuriers se regroupa autour de lui pour entreprendre des raids avec lui. Et c'est à cette période que les Ammonites firent la guerre à Israël. Quand ils attaquèrent les Israélites, les responsables de Galaad allèrent chercher Jephté dans la région de Tob. Ils lui dirent « Viens prendre le commandement de nos troupes pour que nous combattions les Ammonites. » Jephté leur répondit « Vous m'avez haï. Vous m'avez chassé de chez mon père. Comment osez-vous faire appel à moi maintenant que vous êtes dans la détresse ?» Les responsables reprirent « C'est bien pour cela que nous revenons vers toi maintenant. Si tu viens avec nous et si tu combats les Ammonites, tu deviendras notre chef à tous et tu seras à la tête de toute la population de Galaad. » « Soit, répliqua Jephté, mais si vous me faites revenir pour combattre les Ammonites et que l'Éternel me donne la victoire sur eux, je resterai votre chef. » Alors les responsables de Galaad lui déclarèrent « L'Éternel en est témoin, qu'il nous punisse si nous ne faisons pas ce que tu as dit. » Alors Jephté partit avec les responsables de Galaad. Le peuple le nomma chef et le mit à la tête des troupes. Jephté répéta les termes de l'accord conclu avec les responsables devant l'Éternel à Mitzpah. Un peu méfiant notre Jephté, il conclut une alliance, mais il a veillé à ce qu'il y ait des témoins, et pas des moindres, l'Éternel lui-même, pour que ces chefs de Galaad ne se mettent pas à tricher à nouveau. Mais enfin, ça c'est une autre histoire. Comme les autres juges, Jephté est l'instrument choisi par Dieu pour sauver son peuple. Le mot « yasha », sauver, est utilisé pour Jephté comme pour les autres. En cela, il ressemble aux juges qui l'ont précédé et il préfigure, bien imparfaitement bien entendu, le juge et sauveur parfait qui allait venir quelques 1100 ans plus tard. S'il a cependant une place dans le livre des juges, une leçon particulière à nous communiquer, c'est essentiellement dans ce premier passage que nous les trouvons. Si nous comparons le passage que nous venons de lire, que je viens de vous lire, que vous avez suivi, j'espère, dans votre Bible, avec les versets 6 à 16 du chapitre 10, alors je vous invite à le faire, vous pouvez le faire en même temps que moi, on va parcourir rapidement. Nous verrons que l'expérience de Jephté dans ses relations avec les anciens ou responsables de Galaad est une parabole, illustrant parfaitement la relation entre Dieu et Israël. Si nous comparons Jephté à Dieu et les anciens de Galaad à Israël, nous verrons facilement les ressemblances. Comme au verset 6 du chapitre 10, Dieu est rejeté par son peuple. De même, au verset 1 à 3 du chapitre 11, Jephté est rejeté par ses frères. Des versets 7 à 9 du chapitre 10, les Israélites sont dans la détresse, subissant les conséquences de ce rejet de l'Éternel. Et ce passage-là correspond au verset 4 du chapitre 11, où les habitants de Galaad sont attaqués par les Ammonites et n'ont personne pour les conduire à la guerre. Aucun chef n'est prêt à conduire l'armée. Une première repentance et demande d'aide auprès de la personne rejetée a lieu ensuite. Il s'agit de Dieu au verset 10 du chapitre 10 de Jephté au verset 5 et 6 du chapitre 11. Dieu refuse son aide initialement, des versets 11 à 14 du chapitre 10, alors que Jephté exprime son objection, son refus initial, au verset 7 du chapitre 11. La prière du peuple en détresse devient plus sincère et insistante. Au verset 15 à 16 du chapitre 10, et c'est la même chose pour les chefs de Galade auprès de Jephté, au verset 8 du chapitre 11. Enfin, au verset 16b, la deuxième moitié du verset 16 du chapitre 10, Dieu finit par exaucer la prière de son peuple en détresse, alors que Jephté, au verset 9 à 11 du chapitre 11, se laisse convaincre et accepte de répondre positivement à la prière des anciens de Galade. Alors pourquoi Dieu donne-t-il ainsi un cas humain très concret pour illustrer sa relation avec son peuple? Pour souligner à la fois l'infidélité et l'inconséquence de ce dernier. Eh bien, très certainement pour la même raison que Jésus-Christ enseigne le peuple au moyen de paraboles. Comme celle du propriétaire de la vigne, par exemple. Lorsque nous autres, hommes et femmes, entendons une histoire humaine, parlons de choses et des situations concrètes que nous connaissons, non seulement nous reconnaissons plus facilement la leçon qu'apporte la situation, mais nous avons tendance à la retenir un peu plus longtemps. Peut-être parce que nous nous mettons sans hésiter à la place des intervenants dans l'histoire. Jephté nous apporte ainsi une première leçon importante, en illustrant pour nous comment nous avons tendance, nous qui prétendons être le peuple de Dieu, à agir envers notre Dieu créateur, notre Dieu rédempteur. Quand tout va bien, nous l'oublions, nous le négligeons, nous le prenons à la légère, voire nous nous montrons rebelles envers lui. Quand nous sommes alors dans la détresse, nous courons auprès de lui en nous attendant à un exaucement immédiat. Jephté illustre pour nous et pour Israël il y a 3000 ans la folie, l'ingratitude, l'incohérence d'un tel comportement. Cela n'est cependant pas tout, n'est pas du tout la seule leçon que Dieu a préparée à travers ce juge Jephté. Je voudrais maintenant vous lire quelques courts passages du Nouveau Testament qui nous aideront à comprendre d'autres leçons à découvrir dans cette partie du livre des juges. Vous allez reconnaître ce passage, je pense. Homme, Israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés. » Oui, vous l'avez reconnu, la première prédication de Pierre après la Pentecôte, dans le livre des Actes. Et Pierre rappelle quoi ? Avant tout, il rappelle au peuple qu'ils ont rejeté Dieu. Ils ont rejeté le Christ. Que Jésus-Christ est celui qui est rejeté. Pourtant, c'est lui que Dieu a choisi. C'est lui que Dieu a ressuscité. Et c'est à lui qu'il faut venir pour le salut espéré. Le salut recherché. Oui, comme d'autres juges, mais de manière particulière, à cause de ce rejet de ses frères, Jephté nous annonce Jésus-Christ, juge et sauveur parfait. Lui aussi rejeté, mais ensuite recherché, comme seule source du salut de son peuple. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, nous rappelle Pierre à nouveau dans sa première épître. 1 Pierre 2, verset 7. En fait, dans cette épître, Pierre citait le psaume 118. Jephté, rejeté par la faute des autres, pas par sa faute. Jésus n'a pas été rejeté par sa faute. Mais Jephté non plus. Jephté a été rejeté par la faute de ses parents, par la faute de ses frères. Il ne rappelle pas seulement Jephté, le Dieu de l'Alliance, rejeté par Israël. Il annonce aussi le Messie de ce Dieu de l'Alliance. Le Messie qui est également rejeté par les hommes pécheurs, mais qui, cependant, sera ce seul recours. Le seul recours pour des millions d'hommes, comme nous tous, qui sommes ici rassemblés aujourd'hui. Avons-nous besoin de preuves, d'autres preuves, que Dieu avait préparé son plan de salut très, très longtemps à l'avance? Jephté nous donne une preuve de plus. Et c'est encore, ou toujours, pas la dernière leçon de Jephté. À travers le choix de cet homme, de ce fils illégitime, Dieu veut nous donner une autre leçon encore, nous concernant, davantage dans notre vie chrétienne. Nous trouvons dans la première épître de Paul aux Corinthiens ce verset que vous connaissez certainement, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles que l'on méprise. Celles qui ne sont point pour réduire au néant, celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Voulant édifier les Corinthiens, les former à servir, à glorifier Dieu davantage, Paul leur rappelle d'abord qu'ils n'ont aucune raison de se glorifier d'eux-mêmes. Qu'il s'agisse de leur statut social, qu'il s'agisse de leur caractère, qu'il s'agisse de leurs dons. Tout comme Jephté, ce sont des rejets, des méprisés, des gens sans héritage. Rien ne dit cependant que c'est de leur faute. Que cette situation soit à cause de fautes qu'ils auraient commises. Pas plus que dans le cas de Jephté. Jephté n'y est pour rien s'il est né hors mariage. Dans ces circonstances, on a différentes options lorsque nous reconnaissons que nous n'avons pas grand-chose, que nous sommes des rejets, que nous n'avons pas d'héritage. Soit nous pouvons crier à l'injustice, nous pouvons ressentir de l'amertume. Il y en a un peu chez Jephté. On peut se lamenter. On peut aussi se morfondre dans la passivité ou dans la dépression. Ou bien, on peut comprendre, tout comme Jephté, entre les versets 8 et 11 de notre passage, que même un homme rejeté peut avoir un rôle important dans le plan de Dieu. Jephté change d'attitude, se rendant compte que s'il reste dépendant de Dieu, au verset 9, il le dit, si l'on appelle même un Dieu comme témoin de son appel par les chefs de Galaad, au verset 11, alors Dieu peut se servir de lui le rejet, le mépriser, l'homme de rien. Il peut même donner la victoire et la délivrance que Dieu veut apporter peut passer par lui. Il y a là une leçon qui nous vient de la situation de Jephté en tant qu'homme rejeté. Dieu rappelle ici que ses voies ne sont pas les voies des hommes. Qu'il ne nous choisit pas pour le servir à cause de nos ancêtres nobles, célèbres, de notre rang social. Il ne nous choisit pas à cause de notre compte en banque ou de notre popularité parmi les autres hommes. Dieu nous choisit parce qu'il nous a formés, chacun de nous. Dieu nous choisit parce qu'il a un plan pour nous, chacun de nous. Dieu nous a choisis parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a préparé une tâche, une responsabilité. Et il nous a équipés pour cette tâche. Jephté nous rappelle que nous avons une place et un rôle dans l'Église, que nous n'avons aucune raison de nous esquiver, aucune raison de chercher des excuses. Pourtant, soyons honnêtes les uns avec les autres ou envers nous-mêmes, est-ce que ce n'est pas précisément ce que nous avons tendance à faire? Est-ce que nous ne lisons pas si facilement que nous n'avons pas les dons qu'il faut? Que le temps nous manque? Que nous sommes trop ignorants, nous, insuffisamment formés, que d'autres sont bien plus disponibles, bien moins chargés, bien plus à l'aise pour accomplir tel ou tel service. Ou encore, nous prétendons que les autres chrétiens nous rejettent, nous ignorent, ne nous disent jamais merci quand nous accomplissons un service, critiquent systématiquement les résultats. Et puis, quel service ? Ranger la vaisselle, acheter les produits de nettoyage, frotter les sols, pas bien glorieux tout ça. Et personne ne le remarque jamais. Nous nous trouvons en réalité tous, enfin je ne sais pas si tous, mais nous sommes nombreux à trouver tant de raisons de fuir, un peu comme Jephté, dans le pays de Tob. C'est-à-dire d'être loin, de rester inutile à l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu veut accomplir cependant. Mais Jephté aujourd'hui, par Jephté, Dieu nous annonce que ce n'est pas du tout la façon de penser et d'agir dans la maison de notre Dieu. Ce n'est pas sa façon de penser et d'agir. Non, puisque Dieu accepte un homme rejeté. Puisque Dieu décide de se servir de lui, nous devons de notre côté analyser, pallier notre tendance à rejeter notre place dans son œuvre. Le travail qu'il a décidé de nous donner, sous prétexte que nous sommes des hommes et des femmes rejetés, sans talent et sans appel particulier. La vision humaine peut être déformée par l'orgueil, car nous voulons faire quelque chose que les hommes reconnaîtront, au moins un peu comme les pharisiens ou les docteurs de la loi. Cette vision humaine peut également être tordue par la peur. Que puis-je faire, moi, face à une telle montagne, face à un tel adversaire ? S'agit là peut-être de l'attitude qui rend notre Église parfois si passive. Ou alors, parfois, c'est tout simplement la paresse qui nous pousse à rejeter le rôle que Dieu nous a choisi. Or, il y a tant d'autres qui peuvent faire ce boulot-là. Ils sont mieux placés que moi. De toute façon, c'est moi qui l'ai fait la dernière fois. J'ai jamais entendu ça. Ah si, Bernardo, il a déjà entendu. Jephté nous annonce clairement que Dieu appelle qui il veut pour le service qu'il a choisi. Il est Dieu. Il sait ce qui est possible, ce qui doit être fait. Et il sait par qui ça doit être fait. Alors la suite de l'histoire, je vais la reprendre la semaine prochaine, parce que nous avons déjà assez à méditer avec Jephté qui annonce la pierre rejetée. Et qui nous annonce que nous ne sommes pas rejetés. Nous sommes peut-être rejetés par la société des hommes. Jésus-Christ nous annonce que le monde est celui ou celle qui suit Jésus-Christ. Que la haine du monde est une normalité. Mais nous ne sommes pas rejetés par Dieu. Et donc chacun de nous a un rôle. La semaine prochaine, il va être question d'histoire. Alors si vous n'aimez pas l'histoire, entre cette semaine et la semaine prochaine, commencez à aimer l'histoire. Parce que sinon, vous allez vous faire taper sur les doigts. Jephté, tout bandit qu'il était, il aimait l'histoire. Vous allez le voir dans la suite de ce passage. Mais pour rappeler un certain titre que ceux qui aiment le cinéma connaissent peut-être, hein, la semaine prochaine, ce n'est pas du tout quatre mariages et un enterrement, mais une victoire et deux défaites. Je conclus en vous rappelant que pour la plus grande de toutes ces œuvres, c'est-à-dire le salut de l'humanité, Dieu se sert d'une pierre rejetée. Il se sert de celui qui, selon le prophète Ésaïe, n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions. Jephté le rappelle, Jephté l'annonce, et Jephté détruit toutes nos excuses pour la passivité ou pour le manque d'engagement. Je vous invite à prier. Seigneur, j'ai un peu de peine
à imaginer la douleur de Jephté lorsque les frères avec qui il avait certainement grandi jusqu'à l'adolescence lui ont dit de partir, l'ont chassé de la maison familiale, l'ont chassé de ses terres, l'ont chassé loin. Peut-être que pendant des années, il a souffert, il s'est senti moins que rien. Et toi, Seigneur, tu es allé le chercher. Et tu es allé lui dire, Jephté, j'ai un plan et une place pour toi. Tu as un rôle à jouer dans mon œuvre. Seigneur, nous nous rendons compte aujourd'hui que notre Sauveur lui-même était également rejeté. Aussi, nous avons toutes les raisons d'accepter le rejet du monde, le rejet peut-être parfois de nos familles même, de ceux qui ne veulent pas accepter ton règne. Toutes les raisons de reconnaître que malgré tous ces rejets, toi, tu nous as choisis. Tu as une place pour chacun. Ta parole va nous nourrir et nous équiper pour le service et aucun service n'est rejeté par toi parce que chacun peut être à ta gloire. Pour cette certitude, Seigneur, rendue possible par toi et par toi uniquement, nous te louons ensemble dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.